Sandro Botticelli, Ballade et les Senteurs. Devant moi s'étenaient les verts luxuriants de la colline et le bleu frais du fleuve ondulé par le balancement placide d'un navire solitaire. Les sommets sur lesquels j'étais assise étaient un rocher sombre, pointé vers le ciel, mais pas assez haut pour échapper aux douces rafales du vent qui jouait gaiement avec mes cheveux. Je sentais l'oscillation de mes pieds dans le vide quand j'entendis un grondement venir de l'autre côté de la colline. Je levai la tête et fixai mon regard sur l'horizon. Le bruit s'intensifia à chaque instant lorsque d'un nuage de poussière apparut le galop assourdissant et déconnecté d'un centaure. La rapidité avec laquelle il atteignit le rocher me fit croire qu'il y aura fini contre, mais il se retourna plutôt avec une abile manœuvre de patte. Il commença à longer les murs de pierre avec un léger trot, mais ne trouvant aucune issue de secours, il s'arrêta. Ce fut une crise de colère. La créature piaffée se retournait et se tortillait comme une bête dans une cage. J'observai cette scène avec crainte et consternation. Le centaure ne semblait pas avoir le moindre intérêt pour moi, mais l'aura d'angoisse qui l'entourait était très contagieuse. L'activité de ses sabots sur le sol scannait le moment qui s'écoulait pour arriver à quelque chose d'inexorable. Lorsque celui-ci saisit l'arc de chasse, prit une flèche dans le carquois et la pointa au sol, gardant les yeux rivés sur l'horizon et me poussant à faire de même. C'est là que je la vis, au bord de la colline, avancée d'un pas lent et menaçant, comme un félin prêt à tenir une emboscade. L'hallebarde dorée massive qu'elle tenait serrée dans la main gauche ne semblait pas elle peser. Il semblait que le vent avait trouvé un sujet plus intéressant avec lequel jouer. Il se plaisait à créer avec sa robe des petits tourbillons de soie qui enveloppaient autour des jambes de la femme. Des motifs de bac entrelacés disparaissait et réapparaissait dans les plis. La brise faisait danser ses longs cheveux autour de la peau laiteuse du visage, du cou, de la poitrine et des épaules. Chaque mouvement rendait différents les reflets rouges dorés des mèches, finement entrelacés de branches d'olive vert et argentées qui s'étalaient sur tout le corps, encerclaient son ventre, enveloppait ses bras et ses seins. Mais c'était le regard d'un gris léger et magnétique qui rayonnait le charme de la femme, sereine, mais menaçant, fière et sage, mais humble. Elle avait l'expression cool de quelqu'un qui vient de gagner une bataille et est sur le point d'en réclamer les prix. Mais la dualité de ses propos rendait ses intentions indéchiffrables et provoquait des contradictions en moi aussi. Je ressentais de l'attirance et de la répulsion envers la femme, et la même réaction se produisait pour le centaure, qui semblait fébrile. Faisait des petits pas vers elle, mais ensuite se retirait vers les rochers. L'énigmatique dame, à quelques centimètres à peine du centaure, qui semblait soudain docile et impuissant, le fixant en silence. Quand elle leva lentement son bras droit et tendit ses doigts fuselés vers la tête de son rival, comme si elle voulait caresser doucement le cheveu brun, mais il recula, effrayé. C'est là que la guerrière parla. Une voix élégante et vibrante me parvint. « Pourquoi bougez-vous, centaure? Vous êtes dégoûté, peut-être? Ou avez-vous peur de moi? » Le centaure se redressa dans l'espoir de retrouver une certaine dignité, mais répondit avec hésitation. « Comment pouvez-vous me dégoûter, ô Pallas Athéna? Aucune des étoiles du firmament ne peut rivaliser avec votre beauté. Non, Madès, je n'ai pas peur de vous, pas pour ma vie, mais pour ma liberté. J'aime vivre selon mon instinct et satisfaire mes sens au-delà de toute limite. Je veux vivre les passions sans aucune inhibition, mais cela ne m'est pas accordé si je ne suis pas libre de vous. Pourquoi alors vous me persécutez? Je vous ai fait mal. » Athéna ne répondit pas tout de suite. Dans ses yeux sages, je pouvais entrevoir son esprit prêt à élaborer une réponse. Pendant quelques secondes, il sembla que le monde s'est arrêté. Puis, elle parla. Il y avait un homme, il y a quelque temps, un philosophe et savant grec, mon protégé. Platon était son nom. L'histoire qu'il racontait au monde, maintenant je la raconte à toi, Centaure. L'âme, après la mort et avant la vie, a un moment de réminiscence dans lequel elle ressemble à un chariot tiré par un couple de chevaux et conduit par une orige qui y tient les reins. Le cheval noir est concupiscible et se dirige instinctivement vers le bas à la réincarnation. Le cheval blanc est spirituel et s'élève dans le monde des idées, les super célestes. L'orige, en tant qu'esprit et tête pensante du corps, a le devoir d'élever le chariot vers les idées. Plus il en sera capable, et plus grand sera la sagesse de l'âme une fois de retour dans la vie. Mon intention n'est pas de te persécuter, Centaure. Dans ta tête trotte un rang, le cheval noir et blanc. Ce que tu appelles liberté est en réalité la soumission de ta spiritualité aux passions qui te maintiennent enchaînés sur la terre et ne te permettent pas d'atteindre les étoiles, que tu ne venais que de loin. Je ne suis pas ici pour te priver de tes passions, mais pour t'aider à trouver ton équilibre. Si tu acceptes mon guide, je serai pour toi l'orige du chariot qui te portera à la grandeur. J'attendis la réponse du Centaure, mais j'étais entouré seulement par le silence. Le Centaure inclina docilement la tête devant Athéna. La déesse avait agrippé ses cheveux avec une force délicate, en les adoptant dans une prise ferme mais douce. Elle le traîna hors de l'ombre de la pierre, vers l'horizon, illuminé par le soleil. Ainsi, les deux personnages, comme un couple de vieux amants, disparurent dans le néant. Je restai immobile, en proie à l'extase de la scène à laquelle je venais de participer en tant que présence invisible. Je descendis rapidement le long du mur rocheux et j'ai commencé à courir. J'ai traversé les paysages ruraux. J'atteignis les hauts murs des cintures de la ville et j'ai parcouru les rues étroites et sinueuses de Florence. J'ai senti les bruits sourds de mes pieds cognés sur les trottoirs en pierre, au rythme de mes pas. J'ai poussé la lourde porte en bois qui donnait accès à l'atelier. « Maître Botticelli !» Je l'appelai à grand voix. Le peintre était assis devant une toile, recouverte d'un tissu blanc. Lorsqu'il m'entendit, il tourna la tête vers moi, ses sourcils froncés dans une expression interrogative. Je remarquai qu'il avait l'air curieux et légèrement contrarié. « Vous n'avez pas idée de ce que je vais vous raconter, » dis-je. J'ai raconté la rencontre entre Pallade et le Centaure, à laquelle j'avais assisté. À la fin de l'histoire, les yeux de mon maître étaient devenus grandement ouverts et brillants. Il ne dit pas un mot, mais il souleva les tissus blancs par-dessus la mystérieuse toile, révélant la beauté éthérée des Pallades, immortalisée au moment où elle capturait les cheveux du Centaure entre ses candides mains. J'étais impressionnée. Comment cela peut-il être possible? Demandai-je, avec un air choqué. Le maître, plein de soucis, répondit. Il y a quelque temps, Lorenzo de Medici m'a commandé un tableau qui pourrait perpétuer l'image politique de la famille. N'ayant pas d'idée sur la façon de commencer le travail, je me suis retrouvé à errer sur le même sommet dont tu viens de me parler, à la recherche d'inspiration. C'est alors que j'ai assisté au triomphe d'Athéna sur le centaure. Cette vision surréaliste a mis fin aux questionnements qui marcelaient. Athéna était l'exemple le plus clair d'un pouvoir qui ne domine pas, mais qui guide. Si tu la regardes attentivement, tu remarqueras que la déesse est droite, sa tête est haute, elle exprime la beauté, l'élégance et la force. Elle n'est pas violente, mais calme, car elle a les pouvoirs et sait l'utiliser. Elle a rappelé le centaure à l'ordre, exactement comme les Médici ont apporté la paix à Florence. C'est pourquoi j'ai entremêlé les rameaux d'olivier, symbole de la déesse et de la paix chrétienne, avec des bagues à diamants, symbole des Médici, ceux qui gardent l'harmonie dans la ville. Je voulais qu'il insiste un peu plus sur l'étrange vision qui nous avait frappés tous deux, mais il était tellement absorbé par la description de son nouveau chef-d'œuvre, au point que l'idée d'enrayer son élan m'affligeait. Je pense que les couleurs étaient un coup de génie. Je voulais travailler beaucoup sur le clair sombre pour distinguer la raison de son. En effet, si tu le remarques, Palla d'Athéna est lumineuse. J'ai utilisé des couleurs très claires pour rendre cet effet. Par exemple, dans la robe blanche semi-transparent. Même le cheveu et la labarde reflètent une lumière dorée. Par ailleurs, Athéna est entourée d'un paysage en soi lumineux. On ne peut pas en dire autant du centaure, piégé à l'ombre du rocher. Pour lui, j'ai réservé des couleurs plus troubles, à la fois pour le manteau sombre et pour la peau d'olive. De plus, je pense avoir bien rendu l'interaction entre les deux personnages. Les mouvements sont dynamiques, mais sans un usage excessif des pâteaux et des violences. Ils sont, laissez-moi réfléchir au terme approprié, voilà, harmonieux. J'ai pensé juste que je pourrais créer un lien entre ceci et mon dernier travail. Souviens-toi du printemps, et comment l'oublier, pensais-je. Après tout, dit mon maître, la vénération de la beauté naturelle va de pair avec la recherche de la vérité. Tu ne crois pas? Il s'arrêta brusquement et me sourit, comme s'il avait été pris par un coup de compassion à mon égard. Je pense avoir tergiversé un peu trop. Revenons à la vision. Elle est apparue à mes yeux en réponse à une question. Un doute devait aussi te tourmenter lorsque tu t'es aventuré sur ces sommets. Je suis curieux de savoir quoi de si urgent affligeait ton jeune esprit de déranger ce pauvre centaure et la divine Athéna. Ignorant son air de suffisance, j'ai commencé à réfléchir. Lorsque la réponse m'apparut claire, et livide. J'avais probablement les larmes aux yeux, car le maître me regardait avec un air perplexe. Alors je me dépêchai de parler. Monsieur, il est difficile d'expliquer avec deux mots ce qui me tourmentait au sommet de cette falaise. Ce n'est pas quelque chose de tangible ou d'observable. Depuis des années, je traîne en moi une sorte de créature animale, sauvage, qui me pousse à faire des choses merveilleuses, puisqu'elle nourrit et enivre ma créativité. Je ne pourrai jamais me passer d'elle. Elle est mon âme sensible, instinctive et émotionnelle. Sans elle, je ne pourrai pas me vanter de la moindre supériorité par rapport à une machine ou un bout de bois. Mais ma bête échappe tout contrôle. Elle amplifie mes émotions de façon exagérée, transformant ma tristesse en désespoir, en rage la simple colère. La peur devient panique. Même des émotions positives se retournent contre moi. Ressentir trop d'affection ou d'amour me rend vulnérable ou facilement influençable. Je ne veux pas enchaîner ni réprimer ma créature. Je sens son énergie indomptable. Elle doit s'exprimer. Je souhaiterais juste que cela cesse de nuire à mes tripes en ouvrant des plaies saignantes que je ne peux pas guérir. Je voudrais que son faux cesse d'exploser dans ma tête avec ses langues incandescentes qui brûlent les parois sensibles de mon esprit. Par contre, j'aimerais qu'elle soit fluide, harmonieuse, comme un ruisseau, inarrêtable, mais équilibré et vital. Athéna m'a honoré de sa présence, peut-être pour ce que j'aspire à devenir, une femme qui vit des passions, mais qui ne s'en laisse pas submerger. Comme elle avec le centaure, je dois être capable de trouver la force pour diriger cet animal intérieur avec la même grâce résolue. Autrement, il continuera à faire souffrir moi-même et ceux qui m'entourent. Quand j'arriverai à maîtriser ces tourbillons destructeurs, je les transformerai en esprits doux qui me traverseront doucement, me revigoreront de leur énergie vitale, sans s'enraciner en moi, en se développant comme une infection mortelle. Botticelli semblait touché par mon monologue passionné et me fixait avec un regard mélancolique. Les effets collatéraux de la sensibilité, dit-il dans un murmure si léger qu'il me fit croire, pendant une seconde, que mon maître n'était plus avec moi, ou du moins qu'il était devenu immatériel. Je souris à nouveau, avec les larmes aux yeux. Il en savait probablement aussi quelque chose. Naturellement, cet élan émotionnel ne dura pas longtemps. Botticelli récupéra immédiatement son attitude joyeuse et ironique, bien que un peu arrogante, et il dit « Ton histoire est magnifique. Tu trouveras sûrement une solution au problème qui t'afflige. Bon, tu peux dégager maintenant. Je n'ai pas pu fermer les yeux toute la nuit et j'ai l'intention de me consacrer à un long sommeil réparateur. » Je levai les yeux regardant le ciel. Pourquoi n'avez-vous pas dormi? J'ai eu un horrible cauchemar, répondit-il. J'ai passé toute la nuit baladé dans les rues de Florence pour éviter qu'il ne revienne. Que se passait-il dans le cauchemar? Le maître me regarda d'un air grave. Je me mariais. Ça me fit éclater de rire et Botticelli m'enseigna du regard. Au revoir, monsieur, dis-je entre deux sourires. J'ai sorti tout de suite, avec mon esprit soulagé et la prise de conscience qu'après tout, chacun a ses problèmes dans la vie. Narration de Sofia Kosiwa-Sessou.